VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le monde aujourd'hui, votre rendez-vous quotidien qui fait le point sur l'actualité. Il est 5h30 en temps universel. À la présentation, Nanit Talani. Vous en saurez davantage dans quelques minutes. En attendant, voici les principaux titres que nous allons développer au cours de cette édition de ce mardi 31 octobre 2023. Joe Biden exclut le Gabon, le Nigeria, l'Ouganda et la Centrafrique du programme AGOA pour critères d'éligibilité non respectés. L'Espagne renforce son soutien au Sénégal avec des drones pour lutter contre la crise migratoire. En RDC, la Cour constitutionnelle lève un obstacle et ouvre la voie à la candidature présidentielle de l'opposant Moïse Katumbi. Dans la partie magazine, nous vous proposerons l'entretien avec un résident de Kidal qui reste sous tension avec la lutte pour le contrôle des zones libérées. Forum de la recherche scientifique au Burkina Faso, le Nigeria à l'honneur. Et puis vos rendez-vous habituels avec l'économie et le sport, avec notamment Lionel Messi qui confirme sa domination avec un 8e ballon d'or. En attendant, voici le journal. Le président américain Joe Biden veut mettre fin à la participation du Gabon, du Niger, de l'Ouganda et de la République centrafricaine au programme commercial de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA. Selon M. Biden, cette mesure est motivée en raison des violations flagrantes des droits de l'homme internationalement reconnues, plutôt commises par la RCA et l'Ouganda. Malgré un engagement intensif entre les États-Unis et la Centrafrique, le Gabon, le Niger et l'Ouganda, ces pays n'ont pas répondu aux préoccupations des États-Unis concernant leur non-respect des critères d'éligibilité à l'AGOA, a déclaré M. Biden dans une lettre adressée à la Chambre américaine des représentants hier lundi. Il a également cité l'incapacité du Niger et du Gabon à établir ou à faire des progrès continus en matière de protection du pluralisme politique et de l'état de droit, ajoutant qu'il continuera à évaluer si ces pays remplissent les conditions d'éligibilité du programme AGOA qui accorde aux exportations des pays éligibles un accès en franchise de droit au marché américain. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a rejeté hier une requête contestant la nationalité congolaise de l'opposant Moïse Katumbi et lève donc un potentiel obstacle à sa candidature à la présidentielle du 20 décembre. Le point avec Rosine Munezero.
Depuis que la Commission électorale nationale indépendante a publié une liste provisoire de 24 candidats le 20 octobre, plusieurs requêtes en contentieux ont été déposées, dont une contestant la nationalité congolaise de Moïse Katumbi. Lors du débat devant la Cour, Noël Tiani, un autre candidat à la présidentielle, a affirmé que M. Katumbi a obtenu la nationalité italienne, alors que, selon lui, la nationalité congolaise est une et exclusive. La Cour constitutionnelle a rejeté lundi cette requête et a levé un potentiel obstacle à sa candidature à la présidentielle du 20 décembre. Moïse Katumbi, 58 ans, riche homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga, est considéré comme l'un des plus sérieux challengers au président. Président sortant Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat.
Peu après la décision hier de la Cour constitutionnelle, Antoine Roger Boulamba de la VOA a recueilli la réaction de l'avocat de Moïse Katumbi, maître Hervé Djakiesé.
Non, nous nous attendions à une telle décision pour des raisons évidentes. D'abord, la nationalité congolaise de Moïse Katumbi était incontestable. Et à l'appui de cela, Moïse Katumbi détenait les documents prévus par la législation congolaise. Une décision contraire nous aurait d'autant plus surpris que la personne qui a introduit la requête en contestant sa candidature l'a fait avec beaucoup de légèreté, puisqu'à l'appui de ses prétentions, c'était un article de journal, d'ailleurs rétracté. Donc sincèrement, entre la production des documents juridiquement prévus par la législation congolaise en la matière et un article de presse, c'est le contraire qui nous aurait vraiment surpris. Et nous, on a déposé la candidature de Moïse Katumbi pour qu'il soit président de la République. Notre plus prochaine étape, c'est la réunion de reprise avec Félix Tshisekedi Tshilombo en janvier 2024. Mais dans l'entretemps, nous avons une campagne électorale à mener. Nous avons le peuple congolais à mobiliser.
Maître Hervé Diakiesse, l'avocat de Moïse Katumbi. Au Gabon, le Parlement de transition a inauguré sa première session ce lundi à Libreville. Conformément à la charte révisée le même jour que leur nomination par les militaires du pouvoir, les 168 parlementaires des deux chambres devront entre autres remanier les différents textes de loi écrits sous le régime déchu d'Ali Bongo Ondimba. Ce Parlement d'exception entre en fonction sur fond de vifs débats autour de la capacité de ses membres à travailler en toute objectivité. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Cette rentrée parlementaire, la première du genre sous l'ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions, donne l'occasion aux députés et aux sénateurs de se pencher en effet sur un certain nombre de textes, à commencer par l'examen et l'adoption du règlement intérieur dans chacune des deux chambres. Ils ont ensuite procédé à l'adoption du plan d'action et la feuille de route de la transition avant l'examen de la loi des finances 2024 et à l'adoption de la loi de règlement de l'exercice budgétaire 2023. Selon la présidente du Sénat, Paulette Nyesamo, les travaux sur l'espace public vont concerner les réformes sur les questions de liberté d'association, de réunion et de manifestation qui sont le fondement de la démocratie et de l'état de droit, a-t-elle affirmé. Elle précise dans le même temps que la session ouverte ce jour doit déboucher sur une meilleure sécurisation des droits civils et politiques des Gabonais. Une architecture de texte à retoucher. Elle avait été presque taillée sur mesure par le régime déchu. Pour VOAfrique, Libreville.
Les forces de soutien rapide du Soudan ont déclaré lundi avoir ravi à l'armée un aéroport à l'ouest de la capitale, alors que les travailleurs d'un champ pétrolier affirment avoir été évacués en raison de l'attaque. Les deux parties se sont également affrontées dans les villes occidentales d'El Obeid et d'El Fasher ces derniers jours, alors que les pourparlers parrainés par les États-Unis et l'Arabie saoudite en vue d'un cessez-le-feu durable, ont repris dimanche dans la ville saoudienne de Jeddah. L'Espagne a livré 6 nouveaux drones multicoptères au Sénégal pour aider le pays à faire face à la crise migratoire. Le ministre espagnol de l'Intérieur par intérim, Fernando Grande Marlaska, a annoncé cette mesure lors de sa visite à Dakar, où il a rencontré son homologue sénégalais. Ces drones sont conçus pour détecter les départs de navires utilisés par les migrants pour rejoindre les îles Canaries en Espagne. En plus des drones, Madrid a également déployé un avion de la garde civile, des soldats, des bateaux, un hélicoptère et des véhicules tout-terrain pour patrouiller les côtes du Sénégal et de la Mauritanie dans le but de lutter contre l'immigration clandestine et de prévenir les décès en mer. Les deux ministres ont déclaré qu'ils redoubleraient d'efforts pour lutter contre l'immigration clandestine et éviter d'autres décès en mer, mais ils n'ont pas annoncé de mesures supplémentaires.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Croissant Rouge palestinien s'est alarmé mardi de frappes aux abords d'un de ses hôpitaux au nord de la bande de Gaza où des civils se sont réfugiés pour se protéger des bombardements israéliens. Le directeur de l'hôpital a indiqué avoir reçu l'ordre d'évacuer de la part de l'armée israélienne. Outre des patients, le complexe hospitalier abrite 14 000 personnes venues s'y réfugier pour échapper aux frappes israéliennes, selon le Croissant Rouge. Ce dernier avait déjà fait part de bombardements dans cette zone dimanche soir. Israël a accusé à plusieurs reprises le Hamas de se servir des hôpitaux pour cacher des armes ou des combattants, ce que dément catégoriquement le mouvement islamiste palestinien. Le gouvernement israélien exclut tout cessez-le-feu dans la zone de Gaza où l'aide est insuffisante pour répondre aux besoins humanitaires sans précédent, selon l'ONU. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou exhorte la communauté internationale à exiger la libération immédiate et sans condition de tous les otages. Washington allié d'Israël, estime également qu'un cessez-le-feu n'est pas la bonne solution pour l'instant, ni la bonne réponse, tout en se montrant favorable à des pauses humanitaires, selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Au Venezuela, les forces de l'ordre ont poursuivi leurs opérations de reprise de prison avec le dernier ciblage du centre pénitentiaire Puente Ayala à Barcelona pour restaurer le contrôle de l'établissement et à mettre fin aux activités criminelles au sein des établissements pénitentiaires. C'est la troisième prison reprise par les autorités depuis septembre dans le cadre d'une offensive visant à réprimer les gangs criminels qui opèrent depuis l'intérieur de ces prisons. En septembre, l'opération avait visé la prison de Tocoron, où opérait l'une des plus grandes organisations criminelles d'Amérique latine. Les autorités y avaient découvert des armes et des installations luxueuses, dont un bar et une piscine, soulignant le niveau de contrôle exercé par ces groupes criminels. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs avec Claire Morin-Gibourg.
La quatrième édition d'Afrique Talent aura lieu à Lomé au Togo les 1er et 2 décembre prochains. Ce forum de recrutement se veut une passerelle entre les entreprises et les diplômés, les cadres locaux ou même la diaspora. C'est une opportunité pour les personnes en recherche d'emploi de rencontrer de potentiels recruteurs et pour les entreprises de rencontrer les meilleurs talents. En Côte d'Ivoire, le Grand Prix du patronat doté de 10 millions de francs CFA a été attribué à Soro Nazona Karim, fondateur de la start-up Inno Invest, une structure spécialisée dans la conception d'ordinateurs, de tablettes éducatives, de stylos à éclairage nocturne et de périphériques. L'award du manager de l'année 2023 a été attribué à la coopérative agricole pour le développement du Sassandra qui compte 4000 membres. Les prix des denrées alimentaires continuent de progresser plus rapidement que l'inflation dans près de 80% des pays dans le monde, a souligné hier la Banque mondiale à l'occasion de la mise à jour mensuelle de son rapport sur la sécurité alimentaire. Dans certains pays tels que l'Argentine, l'Égypte, l'Iran ou le Nigeria, la hausse dépasse même les 30% sur un an, alors que la pauvreté y a fortement progressé.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour à tous.
Pour commencer, Lionel Messi a remporté hier son 8e ballon d'or.
Oui, transféré l'été dernier du Paris Saint-Germain à l'Inter Miami, ici aux États-Unis, la star argentine a pris pour la 8e fois la lumière lors de la cérémonie du ballon d'or, hier au théâtre du Châtelet à Paris. Déjà sacré champion du monde pour la première fois fin 2022 au Qatar, auteur de 7 buts au cours du tournoi, dont un doublé en finale, Lionel Messi a devancé sur le podium le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé. C'est un cadeau à toute l'équipe d'Argentine pour ce que nous avons accompli, a déclaré Messi sur scène après avoir reçu son prix des mains de David Beckham, le copropriétaire de l'Inter Miami, son nouveau club. Il a dédié son trophée à la légende argentine Diego Maradona, qui aurait fêté son 63e anniversaire lundi. Joyeux anniversaire, Diego, c'est pour toi aussi, a déclaré Messi. Son coéquipier en sélection, Emiliano Martinez, a été élu meilleur gardien de la saison. L'anglais de Dortmund, transféré cet été au Real Madrid, Jude Bellingham, 20 ans, a été élu meilleur jeune joueur de l'année. L'autre joueur des Merengues, le Brésilien Vinicius Junior, a remporté le prix Socrates qui récompense depuis l'année dernière le footballeur qui a investi mieux dans sa communauté. Il succède ainsi au Sénégalais Sadio Mané. Chez les dames, l'Espagnol Aitana Bonmati a été couronné ballon d'or pour la première fois à 25 ans, succédant à la double lauréate et coéquipière en sélection et au Barça, Alexia Putellas.
Pour terminer, Yacouba, Luis Rubiales suspendu 3 ans par la FIFA.
Cette sanction de l'instance mondiale du football fait suite à son baiser surprise à la joueuse Jenny Hermoso. Après le sacre mondial des Espagnols, Luis Rubiales était déjà suspendu à titre provisoire pour 90 jours par la FIFA, qui a rappelé qu'il pouvait faire appel de sa suspension auprès de la commission de recours. Le 20 août, quelques minutes après le sacre mondial de la Rora féminine à Sydney, le patron du foot espagnol a embrassé sur la bouche, par surprise, Jenny Hermoso, provoquant l'indignation en Espagne et à travers le monde. Sous la pression, Rubiales a fini par démissionner le 10 septembre, se disant victime d'une campagne disproportionnée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani de retour pour nos dossiers du jour. C'est en principe demain 31 octobre 2023 que la MINUSMA doit rétrocéder sous ses emprises de Kidal au Fama où tous les regards sont braqués. Cependant, depuis le début de la rétrocession des emprises de la MINUSMA à l'armée malienne, ses forces et les groupes armés et terroristes se battent pour le contrôle de ces zones libérées dans Kidal. Pour en savoir plus sur la situation globale à Kidal, Modibo Dembélé a joint Sidi Amar, un habitant de Kidal.
Je suis un habitant de la région de Kidal. Bon, ce qu'on peut dire par rapport au retrait des troupes de l'administration de Kidal, on peut dire tout simplement que c'est en cours. Je pense que le contingent tchadien qui était à Kidal a déjà évacué les lieux. Ils se sont rencontrés avec l'autre qui était déjà à Delhok parce que les camps étaient déjà délaissés par le contingent tchadien. Maintenant, il reste le contingent guinéen, béninois, qui sont à Kidal mais qui n'ont pas jusqu'à présent des autorisations de vol pour quitter par le ciel. Et maintenant, ils sont toujours là-bas bloqués par manque d'autorisation. Là, ils sont toujours là. Une partie qui est déjà évacuée et l'autre partie est toujours là. Donc c'est la contrainte principale qui est là aujourd'hui.
À l'heure actuelle, l'armée malienne est-elle arrivée à Kidal?
Non, pas du tout. L'armée malienne est à Nefis, à 110 km de Kidal. Mais chaque jour, elle survole le territoire. Voilà. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas encore dans la ville de Kidal.
Comment se présente la ville même de Kidal?
Bon, ce qu'on peut remarquer aujourd'hui à la ville de Kidal, c'est que la ville s'est vidée complètement de la plupart de ses populations. Voilà, par peur de représailles et de voilà et des conséquences peut-être d'une affrontation, d'une confrontation de troupes du CSP de l'armée malienne. Les gens se sont cherchés, d'autres sont partis en Algérie. La plupart d'autres se sont repliés aussi vers un peu plus vers le sud, vers la ville de Béo. Mais actuellement, il faut reconnaître que les moyens de transport sont quasiment inexistants et très chers. Le fait que la situation ne permet plus aux gens de sortir actuellement. Mais la population n'est pas assez nombreuse. 70% des populations ont quitté.
Où en sommes-nous avec la rétrocession du camp de Kidal aux autorités maliennes?
Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aménagement, qui est une mission de stabilisation au Mali, a anticipé un peu son retrait, vu la situation actuelle où elle se retrouve aussi entre deux feux. Donc, elle a accéléré son retrait. Et normalement, la passation devrait se faire en tout cas entre l'aménagement et les représentants du gouvernement malien qui doit se retrouver à Kidal, qui est notamment le gouverneur. Donc, en tout cas, c'est l'information actuelle pour le moment.
Est-ce qu'on doit craindre une confrontation entre l'armée malienne et puis les groupes armés?
Ah oui, cette confrontation, elle est déjà en cours. Elle a été faite depuis longtemps. Elle continue son chemin. La confrontation, à l'heure actuelle, elle est inévitable. Pour contrôler les camps de l'aménagement ou autre, parce qu'on ne voit pas de pourparlers en cours. Inévitablement, on va vers ça, malheureusement.
Au Burkina Faso, la 14e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques a eu lieu à Ouagadougou. Les chercheurs et inventeurs ont exposé leur savoir-faire. À cette dernière édition, le Niger a été l'invité d'honneur, nous dit notre correspondant depuis Ouagadougou, Lamine Traoré.
Nous sommes au Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques dans un des pavillons du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Une moto ordinaire transformée en motoculteur, l'ingénieur est burkinabé, Ousmane Kabore, inventeur.
Vous savez que depuis une dizaine d'années, nous avons eu. On est toujours dans ce problème-là. C'est-à-dire que les djihadistes utilisent carrément cette moto-là pour semer vraiment des désordres dans notre pays, dans les trois pays justement, Burkina Faso, Mali et puis le Niger. Alors nous, on s'est dit qu'en utilisant par exemple cette moto-là, pour cultiver, ça peut être thérapeutique pour les enfants qui sont traumatisés. Si vous mettez 5 litres de gasoil, d'essence plutôt, mais vous traitez un hectare en 2 heures de temps.
Dans cet autre stand, des chercheurs ont mis au point 11 nouvelles variétés de riz, toutes entièrement made in Burkina. Tene Sanou, doctorante à l'université de Ouagadougou.
Dans ces 11 nouvelles variétés de riz, on a par exemple 2 nouvelles variétés de riz qui sont riches en amidon résistant et en amylose. Ce qui fait que ces riz sont moins digestes et donc recommandés pour les diabétiques de type 2. On a également 2 nouvelles variétés de riz waxy, également appelées des riz sucrés, qui se digèrent rapidement, qui sont recommandés pour les sportifs et également pour les enfants. Si on arrive vraiment à vulgariser ces riz, ça sera vraiment intéressant pour résoudre les questions de sécurité alimentaire. Parce que déjà, on a des riz qui ont un cycle court. Ces riz peuvent être récoltés 3 fois dans l'année. Pourtant, les riz qu'on a actuellement, c'est juste 2 fois dans l'année.
Il y a aussi une entreprise burkinabè spécialisée dans la pisciculture, comme le pays n'a aucun accès à la mer. Mais les Burkinabés adorent le poisson. Souleymane Barreau, responsable commercial de Agrobétalia.
Agrobétalia, c'est une entreprise qui est dans la distribution, la fabrication des intrants et d'élevage. Les aliments poissons, bétail, volaille. Mais notre spécialité, c'est les aliments poissons. Nous produisons de l'aliment poisson sur place. Nous importons également de l'aliment poisson depuis Ghana. Et tout ce que nous présentons ici, c'est confectionné ici au Burkina Faso. Alors, que ce soit les bassins, le système aquaponique, tout est fabriqué avec nos techniciens locaux ici sur place.
Durant 5 jours, plusieurs centaines de personnes, chercheurs, innovateurs et inventeurs, ont exposé et montré leur savoir-faire. Le Niger était le pays invité à cette édition du forum qui a pris fin samedi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Lors du sommet de la paix qui s'est tenu au Caire, en Égypte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que la paix est la seule option possible entre Israéliens et Palestiniens. À l'inverse, sa ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, tient un discours radicalement différent. Idriss Fall a joint André Thomas Hossein, professeur de droit international à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Tout d'abord, il y a eu la conférence à Cairo où il y a eu une dizaine de pays qui se sont rencontrés juste après le 7 octobre. Et le président de l'Afrique du Sud, Ramaphosa, a prononcé un discours où il a fait un appel très passionné de trouver une solution avec l'appui des pays de la région, c'est-à-dire les pays voisins de l'Israël, et que sur la base d'une meilleure solution pour le peuple, pour la nation des Palestiniens qui n'ont pas vraiment un territoire national, on pourrait discuter une paix, une détente. Il a même parlé, comme exemple, de la détente en Europe dans les années 70 et 80.
Les attaques du 7 octobre sont comme une volonté d'enterrer toute volonté de discussion de paix, apparemment.
Oui, oui. Mais dans l'analyse de Ramaphosa, il faudrait trouver une solution qui pourrait satisfaire la grande masse du peuple palestinien pour évidemment aussi isoler les extrémistes comme les gens de Hamas. Mais son ministre des Affaires étrangères, Madame Naledi Pandor, elle a un discours un peu différent. C'est même un discours de combattante où elle prend tout à fait la rhétorique des mots-clés de la Hamas et défend le droit de Hamas d'utiliser n'importe quel moyen dans la défense de leurs intérêts nationaux, de leur combat contre l'oppression israélienne. Alors, il y a un manque peut-être de coordination dans le gouvernement de l'Afrique du Sud, parce que les déclarations de Mme Pandor vont bien au-delà de ce que l'Union africaine et les autres pays africains se sont prononcés. Ainsi, en Afrique du Sud, on voit aussi très fréquemment des minorités musulmanes qui sont des activistes, même un peu fondamentalistes, mais comme partout dans le monde musulman, ils se divisent entre les chiites et les sunnis. Et alors là, il y a vraiment un aspect bizarre, que le Hamas est une organisation sunni, d'origine appuyée par l'Arabie saoudite, mais maintenant soutenue par l'Iran, qui est la nation qui appuie les chiites. L'Afrique du Sud, je dirais, avec leur bonne volonté d'assister dans une solution du conflit, ils ne pourront vraiment pas achever n'importe quoi.
Même on a entendu l'Afrique du Sud proposer mobiliser une force pour aller faire de l'interposition à Gaza.
Il y a un peu, je crois, un manque de réalisme. L'Afrique du Sud, certainement, n'a pas de capacité pour contribuer à une telle force de maintien de la paix. Ce serait une force des Nations Unies composée par différents pays dont les circonstances actuelles ne seraient pas possibles parce qu'il y a des attaques pendant 24 heures chaque jour. La stratégie israélienne, c'est de dépopuler le nord du Gaza, de faire les appels à la population qu'il se retire au sud pour permettre une opération de nettoyage, une opération où les forces Hamas seraient complètement isolées ou bien détruites ou bien emprisonnées.
André Thomas Hossein, professeur de droit international à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
VOA Afrique en direct de Washington.
Alors qu'Israël continuait d'étendre ses opérations militaires à Gaza dimanche, les États-Unis ont réitéré leurs appels à la protection des vies humaines innocentes. Par ailleurs, un expert militaire a averti que l'objectif de Tel Aviv visant à détruire le Hamas pourrait s'avérer presque impossible. C'est un reportage de Véronica Balderas Iglesias de la VOA. Le récit est d'Eric Manirakiza.
Les forces de défense israéliennes ont souligné dimanche que le Hamas, et non la population de Gaza, est la cible de leurs opérations militaires, désormais élargies. Cependant, à mesure que de plus en plus de rapports et les images montrant des dégâts considérables dans les zones civiles émergent, l'approche d'Israël et le soutien que lui apportent les États-Unis continuent de faire l'objet d'un examen minutieux. Lors de son apparition dans l'émission This Week de la chaîne ABC, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a réaffirmé la position des États-Unis sur la question.
Ce que nous fournissons à Israël est soumis aux lois de la guerre et à l'obligation de prendre des mesures pour protéger les vies innocentes. Ce sont les conditions que nous imposons chaque fois que nous transférons des armes à un autre pays.
Des proches des otages pris par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre en Israël ont exprimé leur inquiétude quant à l'offensive terrestre qui pourrait mettre en danger les personnes kidnappées. Mais M. Sullivan a ajouté que plusieurs efforts sont actuellement déployés pour les ramener sains et saufs à la maison.
Nous sommes prêts à soutenir les pauses humanitaires afin que les otages puissent sortir en toute sécurité et nous continuerons à y travailler chaque jour.
La guerre visant à détruire le Hamas a été qualifiée comme un objectif presque impossible qui pourrait prendre des mois, selon le général à la retraite Robert Abrams, qui a également accordé une interview à ABC.
La défense que le Hamas va opposer dans ce terrain urbain très dense, contrairement à tout ce que nous avons vu ces dernières années, va nécessiter des combats très acharnés tout en veillant simultanément à ce que les Israéliens ne ciblent pas involontairement les lieux où se trouvent les otages.
Le général Abrams a également discuté des questions qui devront être abordées après la fin du conflit militaire.
Le Hamas a été créé en raison de l'absence d'un État palestinien distinct, d'une solution à deux États, comme beaucoup l'ont évoqué. Il faut en tenir compte lorsque l'on se demande comment tout cela va se terminer. Cela doit être pris en compte dans l'équation.
Entre-temps, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens s'est inquiétée dimanche, indiquant que la prise d'assaut de ces entrepôts d'aide à Gaza saute en signe que l'ordre civil commence à se dégrader. Cette mise en garde est intervenue alors que le pape François a renouvelé ses appels à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages, dont beaucoup sont présumés avoir une double nationalité.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
fin du monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute la rédaction qui a contribué à sa réalisation. Un merci spécial à Michel Joseph qui était à la réalisation et à Kelvin Fowler qui était à la console. Au micro, Nanit Talani. Pour ne rien manquer de l'actualité, nous vous invitons à rester connectés sur notre site VOA Afrique et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Instagram et YouTube pour plus d'informations 24 heures sur 24. Excellent.